Bonsoir. Il n'y aura finalement plus de perturbations dans la fourniture du carburant en République démocratique du Congo, rassure le gouvernement qui s'est exprimé sur la question hier mercredi. Il y a quelques jours, le groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers avait alerté le gouvernement sur des probables perturbations dans l'approvisionnement du carburant pour défaut de paiement de manque à gagner aux pétroliers. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait convoqué mardi une séance de travail avec le ministre des Finances et lui des hydrocarbures, les représentants des banques et les pétroliers. Ils ont échangé au sujet du paiement des manques à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers. Ils ont harmonisé les vues pour finalement finaliser les accords sur le paiement de ces manques à gagner et éviter ainsi toute perturbation dans l'approvisionnement des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Comment analyser la crise entre le gouvernement congolais et les pétroliers au sujet de la question de l'approvisionnement des produits pétroliers en RDC? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons déjà dans ce studio Al Kitenge. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste économique et stratège. Toujours dans ce studio de Radio Okapi, Jean-Louis Mia Souekama, journaliste spécialiste des questions économiques et de développement. Jean-Louis Mia Souekama, bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne depuis la communication extérieure, Simplice Moulumba, pétrolier. Il est directeur général de la société pétrolière Okapi Distribution. Simplice Moulumba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci d'être avec nous, même par téléphone. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Vous l'avez entendu, il n'y aura finalement plus de perturbations dans la fourniture du carburant RDC, rassure le gouvernement qui s'est exprimé sur la question mercredi. Il y a quelques jours, le groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers avait alerté le gouvernement sur des probables perturbations dans l'approvisionnement du carburant par défaut de paiement de manque à gagner aux pétroliers. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait convoqué mardi une séance de travail avec le ministre des Finances et lui des hydrocarbures, les représentants des banques et les pétroliers. Ils ont échangé au sujet du paiement des manques à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers. Ils ont harmonisé les vues pour finaliser les accords sur le paiement de ces manques à gagner et éviter ainsi toute perturbation avec l'approvisionnement des produits pétroliers en RDC. On écoute à ce sujet le ministre des Finances Nicolas Kazadi dans cet extrait que nous a proposé Billy Ivan Lutumba.
L'Union avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers.
Simplice Moulumba, pétrolier, vous êtes directeur général de la société pétrolière Okapi Distribution. Premièrement, êtes-vous de cette délégation qui a alerté le gouvernement dernièrement sur d'éventuelles perturbations? Et est-ce que, toujours vous, êtes dans la délégation qui a échangé avec le gouvernement par rapport à la communication que vient de faire le ministre?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai suivi religieusement le ministre des Finances, son Excellence, monsieur Nicolas Kazadi, par rapport à son communiqué. Il a appelé plusieurs délégations, entre autres les banques et la profession.
Simplice Moulumba, avant qu'on entre dans le fond de ce que dit le ministre, la question était déjà de savoir si vous êtes dans la délégation qui a alerté et qui négocie en ce moment avec le gouvernement avant qu'on aille dans le fond.
Merci beaucoup. Nous avons délégué quelqu'un là-bas parce qu'on avait autre chose à faire, mais nous avons les rapports sur tout ce qu'on a dit au sein de cette réunion.
D'accord. Le gouvernement nous annonce depuis hier que les risques de perturbation de la livraison du carburant et des produits pétroliers en RDC n'existe plus comme cela aurait pu être entendu depuis quelques jours. Toujours le gouvernement dans sa communication dit qu'il y a harmonisation de vues pouvant aboutir à des accords éventuels sur les paiements des manques à gagner que vous revendiquez. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui sont pas faciles à comprendre pour le public. Est-ce que tout ce que je viens de rappeler et qu'on a entendu de la part du gouvernement, est-ce que vous le confirmez? Est-ce que le risque de perturbation est fini? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt de trouver des accords pour qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus jamais ces perturbations annoncées?
Merci beaucoup. Je serai très clair et bref. Je pense que nous devons un peu changer la méthodologie. Ça, je parle par rapport à ce que j'ai entendu comme communiqué du ministre des Finances. Il parle qu'il n'y aura plus de risque. Les dispositions ont été prises pour éviter ça. Par respect au ministre, je lui concède ses propos. Mais la réalité est la suivante. Comment voulez-vous avoir un stock de 2 jours, je cite bien un stock de 2 jours en ce qui concerne les produits d'aviation, le jet A1. Ça, je parle par rapport au terminal 7 Congo. La situation que je vous donne ici, c'est celle du 17 octobre, dans la réunion des pétroliers importateurs et fournisseurs. Bien sûr, ça c'est au niveau de la CEP. Je peux comprendre aussi le ministre. Il y a quand même un stock au-delà des 2 jours à la SOCIM. Et ce stock de jet appartient à un seul fournisseur. C'est un danger. Pourquoi chaque fois nous devons parler de même chose? Pourquoi chaque fois nous devons revenir sur le même point? Pourquoi ne pas prendre des décisions qui pourront apporter des solutions efficaces et des solutions qui permettront à la profession d'exercer leur profession comme il se doit. Monsieur le ministre, je pense qu'il aura l'occasion de suivre cette émission. À respect au gouvernement, je pense qu'il y a eu plusieurs réunions avec la profession tout autour de pertes et manques à gagner. Des promesses en promesses, des promesses en promesses. Je vais vous dire une chose. Il ne va pas vous choquer, c'est juste pour éclairer l'opinion. Tant nationale, pour ne pas dire internationale. Là, nous parlons au niveau national. Ici, au Congo, nous avons un système qui, depuis le gouvernement Ngouz à Karibon et à Sonam, qui nous a laissé un héritage qui n'a jamais disparu et que nous pouvons le perdre un jour. Ça veut dire quoi, messieurs les journalistes et les invités qui sont sur le plateau en savent plus. Ils sont experts. Lorsque les fournisseurs arrivent avec leur tanker, plein de produits, nous consignons les produits auprès des terminaux. Je peux en citer quelques-uns, la CEP Congo, la SOCIR, la SPSA et LP. Ces produits n'appartiennent pas au gouvernement. Ces produits appartiennent aux fournisseurs. Ils ont le libre choix. En cas de mévente, ils peuvent réexporter leurs produits à une destination de leur choix. Et quand ces produits se trouvent dans auprès des terminaux, nous qui sommes revendeurs, importateurs, nous importons auprès des fournisseurs. Lorsque les produits arrivent, nous avons la structure des prix qui coordonne un peu tous les mécanismes économiques par rapport aux prix, par rapport aux taxes, par rapport au ceci, par rapport au cela. Mais ça ne colle pas. Je prends mon exemple avec ma société. Je fais une importation d'un million, par exemple. J'arrive avec les produits, je mets à la CEP, je commence à demander à la CEP pour livrer dans toutes les stations. Et le gouvernement nous a, si pas, permettez-moi l'expression, imposé, mais nous a soumis à un mécanisme où les produits sont pris, en subvention. On a subventionné pour éviter ce que le ministre a dit, qu'il n'y ait pas grogne sociale. Bravo au ministre, il a fait son travail. Je l'en félicite. Mais le paiement doit suivre. Comment voulez-vous, une année durant, je parle bien et sous contrôle même du ministre qui m'écoute. Parce que la dernière fois qu'il m'a payé, j'étais dans son bureau, je l'ai suivi religieusement et il nous a promis, ça c'est pour l'exercice l'an 2021, qu'il avait soldés. Mais au moment où nous parlons des deux derniers trimestres l'an 2022. L'enveloppe serrée à plus de 200 millions.
Simplice Moulumba, vous gardez la parole. Je vois que vous abordez plusieurs préoccupations qui sont certainement celles des pétroliers. Les préoccupations qui mettent en difficulté ou qui risquent d'affecter la distribution des produits pétroliers en République démocratique du Congo et sur lesquels vous discutez avec le gouvernement, c'est exactement lesquels? Est-ce l'application de la vérité des prix à la pompe? Est-ce la quantité de stock que vous devez commander ou recevoir ou stocker? Ou alors c'est ce que vous avez mis surtout en avant dans votre communication, des manques à gagner que le gouvernement vous doit? Très rapidement, essayez de nous préciser là-dessus pour qu'on avance dans nos débats et que les autres puissent intervenir aussi.
Très rapidement, nous parlons des deux situations. Il y a la situation de prix, n'est-ce pas? J'ai évoqué la subvention. Nous voudrions qu'il y ait la vérité des prix parce que nous sommes en retard. La deuxième situation, c'est la précarité des stocks. Au moment où je te parle, à l'introduction, tu m'avais arrêté, j'étais en train de te parler, par exemple, au 17 octobre, en jet, par rapport au terminal CEP, il n'y avait qu'un stock de 2 jours. Dieu merci, qui a coûté hier avec 4 000, juste pour colmater les brèches, et aussi quantité de 8 000 qui se trouvent à la saucisse. Vous voyez que bientôt, il y aura des élections. Soyons sérieux, soyons responsables. Moi, je pense que le ministre, il est politique, mais il doit être aussi pratique. Parce que la vérité, on peut l'apprendre au ministère des hydrocarbures, le même document que je détiens. Là, je suis devant ma table avec les documents qui parlent. Nous voulons bien aider la République et nous en sommes conscients. Et nous ne disons pas que nous allons créer la crise. Mais la crise se crée d'elle-même. Je vais vous expliquer parce que je vois, vous êtes très pressé, suivez très bien. Il n'a pas payé le manque à gagner pendant une année. Et la deuxième année bientôt va achever parce qu'au 30 septembre, c'était 3 trimestres qu'il n'a pas encore même calculé pour prévoir le paiement. Vous, comme moi, où allons-nous trouver l'argent pour renouveler les stocks? Puisque quand on dit il n'y a pas les stocks, c'est ça la confusion. Quand on dit qu'il n'y a pas les stocks, c'est une confusion. De quel stock parle-t-on? Puisqu'on n'a pas l'argent pour acheter ces stocks. Je vais te dire la vérité. Au 17, je ne voudrais pas citer les noms des entreprises. Parmi nous, tant d'autres qui sont en négatif de 14 000, qui sont en négatif de 11 000, qui sont en négatif même d'un mètre cube. C'était un négatif parce que, par exemple, je parle de mon entreprise au Capi. Je suis chaque fois obligé d'aller solliciter des découverts à la banque. Quand je sollicite un découvert à la banque peut m'ajouter 100 000.
La communication s'est détériorée un peu. Le temps qu'on retrouve la bonne communication avec Simplice Moulumba, Alki Tengue, analyste économique et stratège, de manière très ramassée et dans votre éclairage, qu'avez-vous compris de ce que nous avons écouté des deux parties? Le gouvernement dit qu'il n'y a plus de risque de perturbation et rassure qu'ils sont presque à la conclusion de leurs ententes avec les pétroliers. Vous venez d'écouter Simplice Moulumba, un des représentants des pétroliers ce soir. Il a fait grise mine pour nous dire exactement ce dont il est question. Qu'est-ce que vous en entendez?
Chacun est dans son élément. Le ministre joue la carte politique où il essaie de démontrer à la population congolaise que des solutions sont en voie d'être trouvées, même si cela peut paraître sophistiqué dans le langage technique, comme vous l'avez dit. Et en parallèle, on a un opérateur économique qui passe son temps à essayer de faire du recouvrement par voie des ondes. Et il faut être logique pour comprendre la situation de chacun des deux. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème. Et il est réel. C'est le fait que le gouvernement finit toujours par payer. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais il paye. Je voudrais juste vous dire, qu'est-ce que le gouvernement paye? Le gouvernement subventionne les consommateurs. et il subventionne essentiellement les consommateurs des grands centres urbains. Pourquoi ? Parce que, et le correspondant de tout à l'heure l'a dit, il y a une certaine peur d'une grogne politique. Je voudrais vous donner deux éléments. Le premier, c'est le prix dans un certain nombre de villes. Le carburant est à 2,5 $ en Mbujimayi, il est à 3,5 $ à Cabinda, il est à 5 $ au Sankuru. Est-ce vraiment responsable et équitable de subventionner le carburant dans la partie ouest et laisser des gens dans cette partie, où la pauvreté est beaucoup plus grave qu'en ville? Est-ce justifiable qu'on ait plus peur des gens qui sont en ville et pas des autres? Est-ce équitable? La réponse est non. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, est-ce qu'il est utile de subventionner le carburant de manière tous azimuts? La réponse est non. Parce que moi, quand je suis en Europe, je paye le carburant à son prix. Et beaucoup de gens qui ont autant de moyens que moi et plus, payent leur carburant au prix qu'il faut. Et ils ne demandent rien au gouvernement ni à personne. Moi, je n'ai pas besoin de payer le carburant à un prix subventionné. J'ai comme un sentiment de vol. Et ça devrait être la même situation de toutes les personnes qui ont les moyens de payer le carburant et qui l'ont aujourd'hui à un prix subventionné. Ce n'est pas juste. On ne peut pas être dans un pays où on subventionne les uns et pas les autres. Et même si on devait subventionner, l'intelligence voudrait que, et le monsieur tout à l'heure l'explique de manière assez claire, c'est un héritage de Pingus Garlibond. Comme s'il n'y a personne qui est capable de remettre la question sur la table et y réfléchir sans état d'âme. Cette subvention des produits pétroliers est complètement inutile, exactement comme l'est la subvention des transports publics en République démocratique du Congo. Ça finit par amener des problèmes. Parce que finalement, on paye. Et parce que finalement, l'objectif, c'est d'essayer de sauvegarder la capacité d'achat d'un certain nombre de citoyens d'entre nous qui sont en situation financière délicate. Pourquoi ne pas cibler ces subventions? Cet argent, l'État le détient. Ça veut dire qu'il peut décider, par exemple, de dire nous allons augmenter le prix, nous allons vendre le carburant au prix réel, nous allons vendre les services de transport au prix réel, mais à ceux d'entre nous qui ont très peu de moyens, nous donnons une subvention ciblée. Et aujourd'hui, les paiements électroniques nous donnent énormément de moyens pour être en mesure de résoudre la question.
Mais
laissez-moi terminer.
Oui, allez-y.
On a
un autre intervenant qui doit le faire. Allez-y.
On prend cet argent et on le donne indéfiniment, de manière claire, à tout le monde, à la fois aux riches et aux moins riches, et on le donne de la même manière aux miniers, ça n'a aucun sens. Et moi, je pense que si le problème n'est pas résolu, nous aurons toujours ce genre de discussion que moi, j'ai juste envie de dire qu'elles sont inutiles et elles perdent le temps de la République. Il faut avoir le courage de résoudre le vrai problème, celui de la vérité du prix, mais il faut être en mesure aussi de savoir choisir à qui on donne une subvention de manière ciblée, spécifique. Et au mieux de la situation, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de réellement renforcer le pouvoir d'achat de ceux que l'on considère comme étant les plus faibles. Et de la même manière, on doit être en mesure de pouvoir avoir une politique publique de disponibilisation des produits pétroliers à des prix qui puissent permettre à toute l'étendue de la République d'être servie et d'être en mesure de pouvoir faire son économie de manière viable.
Al-Kitenge, on entend et on vit régulièrement ce genre de bras de fer d'interpellation des pétroliers en République démocratique du Congo, du gouvernement, et généralement c'est plus ou moins les mêmes revendications. Ils veulent que les prix réels soient appliqués à la pompe.
Ils ne veulent pas du tout que le prix réel soit appliqué, et je vais vous expliquer pourquoi.
Ils reviennent sur cette problématique de manque à gagner. S'agit-il de manque à gagner de leur marge de manœuvre ou de la parité avec le dollar?
Allez regarder la cagnotte qui est payée et à qui elle est payée. Elle n'est pas payée qu'aux opérateurs commerciaux. Elle est payée aux opérateurs commerciaux et à des tas de comités des gens. En fait, je voudrais simplement vous dire que c'est malsain. Cet argent qui constitue ce qu'on appelle le manque à gagner et n'est pas transparent, d'abord, et il a été à la base de beaucoup de petits scandales qui devraient nous gêner et nous permettre de réfléchir à comment on résout le problème. Il y a une espèce de petite mafia autour de ça. ça intéresse un certain nombre de personnes de part et d'autre, du côté du gouvernement comme du côté des opérateurs économiques. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés avec cette cagnotte par des simples arrangements algorithmiques, simplement parce qu'ils n'ont pas réellement livré les quantités qu'il faut. Et il y a beaucoup de jeux entre les passations d'écriture et la réalité.
Alors pour faire simple, vu qu'on doit se partager la parole à plusieurs, vous pensez que ce genre d'alerte, ils appellent ça alerte, mais que ça, qui ressemble à une menace, ce genre de menace de rupture, de dysfonctionnement dans la distribution des produits pétroliers de la part des opérateurs du secteur de pétrole, il ne devrait pas exister.
Il n'y a pas que eux. Ouais. La réalité, c'est qu'on essaie de faire pression sur le ministre des Finances pour qu'il décaisse. Mmh. C'est ça la réalité. Il faut juste aller regarder qui sont les bénéficiaires de ces paiements. Vous allez comprendre le jeu qu'il y a.
Voilà.
Ça va bien au-delà de la réalité de ce que l'on dit sur la place publique.
Donc, on verra ce que le représentant des pétroliers ce soir pourra rebondir sur cet aspect. Jean-Louis Miassoué-Kama, journaliste spécialiste des questions économiques et développement. Vous avez entendu un peu l'interprétation, le point de vue des uns et des autres. Nous aimerons connaître votre point de vue sur cette question de ce tête-à-tête régulier entre pétroliers et gouvernement et de cette question de dysfonctionnement dans la livraison des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Des manques à gagner, est-ce vrai, est-ce pas vrai et de cette problématique, peut-être d'un jour de l'application de la vérité des prix à la pompe ou pas?
Oui, bien sûr, on sait que les produits pétroliers sont stratégiques. On disait même, c'est pas quelqu'un qui disait que bon, le pétrole brut est le carburant du monde, de l'économie. On se rappelle peut-être, nous on était enfants, mais l'effet des chocs pétroliers et tout ça, et qu'on sort, et que ça a été beaucoup de remous économiques, et peut-être on est dans un risque, on a la guerre russo-ukrainienne, qui explique un peu cette flambée des prix. Le pétrole brut, je crois, il est à 91,90, pratiquement 92 dollars, mais au plus fort de la guerre, au début de la guerre même russo-ukrainienne, elle a dépassé les 100 dollars aussi. Donc, c'est assez stratégique. Et aussi parce que, à cause des déterminants. Les déterminants essentiels, il y en a plusieurs, mais on peut retenir trois essentiels. C'est le prix moyen frontière, c'est à quel prix ils achètent cela. C'est le taux de change. C'est la parafiscalité, la fiscalité dedans. Et maintenant même, on se demande s'il y a une parafiscalité, une fiscalité, parce que c'est un négatif, en fait, que le carburant est vendu. Normalement, le prix devrait être au-delà de 5000 francs.
Mais quelle est la problématique en République démocratique aujourd'hui? On a mis en avant, je sais qu'il y a plusieurs problèmes, deux ou trois sont suffisamment mis en avant, et celui qui a été mis en avant dans ce cas-ci, c'est le manque à gagner. Quand vous entendez parler de ça, de quoi s'agit-il?
Non.
Quel est le problème?
Le manque à gagner, comme on le dit, c'est justement ceux qui ne perçoivent pas pour entrer dans leur coût, dans leur fonds. Il parlait de 200 millions, je ne sais pas si c'est un autre trimestre, c'est 300 millions, ainsi de suite, et ça s'accumule comme ça. Donc, le fait qu'on ne paye pas la vérité des prix, qu'on ne paye pas le carburant à son coût, donc, eux le prennent, mais eux, malheureusement, ils le prennent à son coût. Et ils doivent recourir aux banques qui leur avancent de l'argent pour fonctionner. Mais cela ne peut pas se faire indéfiniment. On ne peut pas tout le temps avoir des découvertes. Et plus on est découvert aussi, il y a le jeu d'intérêt qui joue, il y a pas mal de choses, donc il y a d'autres coûts. De l'autre côté aussi, le gouvernement veut une chose et son contraire. Il veut soulager la population, soi-disant. Généralement, on a un problème qui est lié aussi des pays sous-développés, c'est cette pression sociale qui existe dans les villes, surtout quand l'exode rural est développé. On parle de 15 à 20 millions, par exemple, d'habitants sur Kinshasa, imaginez-vous. Hein, cette pression sociale qui est vécue dans les villes, on veut limiter la crainte sociale, les élections approchent, et tout ça. On a peut-être même l'image en France des gilets jaunes. Certains vous disaient que, la plupart vous disaient que l'on n'a même plus l'argent pour mettre le fioul pour nous chauffer. Bon, soit. Et surtout que maintenant, c'est l'automne et bientôt l'hiver. Donc, comme c'est un déterminant important aussi des prix, parce que c'est pour le transport, c'est pour pas mal de choses, ainsi de suite, donc il est stratégique.
Alors, ce scénario est récurrent, hein, vous l'avez entendu, ça date de depuis Mobutu, qui a subvention et qui a souvent ces grognes, ces menaces de on risque de prendre en otage le stock ou pas.
Oui, mais etc., ce problème est devenu en même temps conjoncturel.
Pourquoi il existe toujours? Pourquoi il existe toujours alors qu'il est justement récurrent année après année?
Oui, parce que on a fait de ça un problème structurel. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres que le gouvernement, que notre économie ne contrôle pas, étant donné une petite économie ouverte. C'est-à-dire, on a un faible PIB, de population très pauvre, une économie... Bon, soit. Mais on ne contrôle pas les cours du pétrole brut, parce que cela nous vient de l'extérieur. Notre pétrole brut n'est pas raffiné pour qu'on l'utilise. Ensuite, on a aussi de sérieux problèmes de taux de change liés à pas mal de questions, à l'extraversion de l'économie et tout ce qu'on veut. Et donc, le taux de change, dès que les finances publiques, dès qu'il n'y a pas une véritable politique de change, il flambe. Et ensuite, ça correspond à une diminution des recettes. Mais en réalité, on n'a jamais structurellement voulu résoudre le problème. La manière de résoudre le problème, ça prendra peut-être du temps, c'est le fait que on puisse compenser une partie du pétrole importé, produit par importé, par ce qu'on pourrait produire et raffiner ici. Et notamment, c'est un peu l'optique qu'on avait donnée pour à la Sonaïdro. Mais de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que on est dans une économie assez désarticulée. Il y a un prix côté sud, c'est-à-dire toute l'interland de Grand Katanga, un peu Kassa, etc. Il y a un prix au nord, et même vous allez voir que à Kisangani, ex-province orientale, on se ravitaille à NTB par exemple, ou dans les pays voisins.
Alors, c'est une question qu'il faut, régler un jour, surtout dans le fond.
Oui.
Je ne crois pas que dans les négociations, si c'est jamais ça arrive, ce sera une bonne chose. Mais pour être concret, je pense que les négociations vont essayer de d'abord calmer la situation immédiate, se mettre d'accord pour qu'il n'y ait pas le moindre couac, et nous espérons que cela arrive le plus rapidement possible. Le gouvernement dit nous avons tout bouclé, tout est presque signé, hein, je paraphrase.
Mais le gouvernement va payer... le gouvernement va payer peut-être un trimestre, et il restera deux trimestres, et ainsi de suite.
Hein. Alors, donc, on va faire parler d'autres personnes que nous ici sur le plateau, la population, et quelques représentants d'entre eux vont prendre la parole pour interpeller les uns les autres et donner leur point de vue. Simplice Mulumba, pétrolier, directeur général de la société pétrolière Okapi Distribution, vous êtes resté silencieux pendant un bon moment pour écouter les autres, vous allez maintenant réagir, mais vous allez réagir après qu'on ait tous écouté l'analyse de cet auditeur Jacques.
C'est Patrick Mbuniga Tama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Les assurances du Premier ministre congolais est une chose, mais le respect des accords avec les pétroliers en est une autre. Quand on sait que le gouvernement congolais a du mal à respecter certains de ses engagements. Et ce qui se dit dans les milieux des pétroliers, c'est le contraire de ses affirmations. Et le gouvernement congolais doit savoir que la grève des pétroliers a des conséquences sur le vécu quotidien de la population. Quel est véritablement l'appui du gouvernement dans les activités des pétroliers? Car on ne comprend absolument rien sur le bras de fer entre ces deux partenaires.
Alors, on aurait voulu faire réagir Simplice Mulumba sur le commentaire de l'auditeur Jacques. Là, c'est Patrick Mbouli qui a parlé. Alkitende pourra réagir notamment sur Patrick Mbouli un peu plus tard. Mais pour le moment, on laisse d'abord Simplice Mulumba donner sa réaction à l'ensemble des préoccupations qu'il a entendues, mais aussi sur le point de vue même de cet auditeur de Kolwezi.
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que l'heure a sonné pour traiter ces problèmes dans les fonds. On a toujours traité ces problèmes avec un peu de légèreté, mais permettez l'expression. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous en souviendrez, il y a de cela bientôt une année et quelques mois, je suis passé toujours sur la même antenne Radio Okapi pour intervenir. À ce jour, nous n'allons pas, nous, en tant que responsables, menacer ou dire, par exemple, demain, nous fermons nos stations. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous sommes très consciencieux. Nous cherchons même des voies et moyens. Par exemple, pour ne pas aller loin, j'ai double casquette. Je représente une firme suisse qui approvisionne aussi la République. À ce jour où je vous parle, j'ai un bateau à Boma. Je pense qu'il a déjà accosté au niveau de Ango Ango. Il est venu avec une petite quantité de 9500. C'est pour combien de jours? Quand on fait la moyenne de 850 ou 1000 mètres cubes jour, ça je parle que la partie ouest. C'est ce qui n'est pas bon. Ce que je demanderai au ministre, pour être bref, est convoquer les états-majors de la profession pétrolière. Vous voyez même dans ces paiements une injustice qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes subdivisés en deux groupes. Nous avons les majors, ce que vous pouvez appeler autrement les multinationales. Vous savez, les nationaux, nous, comme on dit en lingala, les banamboka. Il y a quelques mois, avant que je parte en vacances, on a décaissé 20 millions. J'ai aimé, à l'arrivée du vice-premier ministre, son Excellence M. Vital Kamerhe, aussitôt qu'il a été placé à ce ministère très stratégique, il a eu la souplesse de nous appeler. Il nous a écoutés. Il a donné des...
Simplice Moulumba, vous êtes là?
Je suis là.
Après, allez-y.
Je suis là.
Ça a coupé un
moment. Allez-y. Pour traiter dans les fonds. On sort un 20 millions sur plus de 200 et quelques millions. On dit, voilà, on fait un deadline. On dit, bon, ça c'est juste un appoint. Prenez 20 millions. Avec les 20 millions, ça a été partagé entre autres SEP Congo, Espesa, Kobil, Saucire, et puis, si j'ai oublié, LPC, j'ai bonne mémoire. Mais, messieurs les journalistes, la SEP Congo que vous voyez là-bas n'arrive plus à nous donner le carburant en temps réel. Ça a des percussions. Lorsque vous n'avez pas payé, par exemple, la SEP Congo, le nombre de pannes qu'il y a avec son charroi automobile pour aller livrer dans nos stations, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, et dans ce rapport, il y a plus de pannes que de véhicules qui roulent. J'attends par exemple le produit à 8 heures, un coup de fil. Monsieur Simplice, est-ce que vous allez laisser un pompiste cette nuit? C'est encore une charge. Je dois payer les heures supplémentaires à un monsieur ou une dame, surtout ce sont les hommes qui restent pour respecter les dames, qui doit rester à la station pour attendre les camions. Voilà les conséquences. Maintenant, vous parlez, demain vous pouvez vous réveiller s'il y a des embouteillages. La CEP n'arrive pas. Par rapport au nombre de camions qui restent, je ne suis pas l'avocat de la CEP Congo. J'ai dit par rapport à la réalité. C'est pourquoi j'interpelle les deux ministres, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, de traiter ces problèmes avec tous les sérieux qu'il faut. Sinon, ça sera très grave.
Merci.
Nous sommes arrivés même. C'est très grave. Je vous dis que l'air est grave. Mais nous, je garantis la population qui nous suit. Je parle sous contrôle de ma conscience. Nous ne sommes pas animés d'une mauvaise foi pour punir. Et surtout, nous sommes conscients de la situation qui arrive d'ici deux mois. Nous devons nous prendre très au sérieux. Il faut même demain dans les conseils des ministres. Là, j'interpelle même le chef de l'État qu'il puisse taper les poings sur la table. Je vais terminer par ceci. Le système, parce que j'ai aimé l'expression de M. Kitenge, la petite mafia. La petite mafia doit cesser. Puisque maintenant, ce système a atteint ses limites. Vous le savez comme moi. Parce que ici, c'est toute la nation qui me suit. J'ai quand même une culture.
Puisque vous en parlez, Simplice Moulumba, si cela est possible, si ce n'est pas un secret d'État et nous ne voulons pas affoler la population pour ça, mais à titre seulement de besoin d'éclairage, quand vous parlez de la mafia, de quoi s'agit-il exactement, cette mafia qui doit se terminer? C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui doit être...
Cette mafia doit cesser. Par exemple, comment voulez-vous? Dans ma petite trésorerie, l'an 2021, on a payé, j'ai touché l'argent, j'en témoigne. Et maintenant, je n'ai pas touché la totalité. Mais quel est le document qui m'a été remis pour que je puisse faire une comptabilité responsable? Parce que à chaque fin de l'année, le mois d'avril qui va suivre, nous devons présenter les chiffres auprès de la DGI et déclarer le profit que nous réalisons. L'impôt sur le bénéfice, il est connu de tous. Et maintenant là, ma petite comptabilité, je ne sais pas tricher, puisque nous devons aimer notre pays. La vérité, c'est celle-là.
Merci, Simplice.
La vérité, c'est celle-là. Ce système digne des cotes sur facture doit cesser.
D'accord, merci.
Doit cesser.
Merci.
S'il vous plaît, je chute. C'est une des raisons qui retarde le paiement des Mankakani.
Merci.
Nous ne voulons plus des conciliabules, des petites réunions inutiles tout autour. Voilà. Il faut faire comme M. Vital Kamerhe l'a dit. J'ai apprécié son courage, l'esprit de décanter la situation. Il a milité, mais la solution en vain. Pourquoi le ministère des Finances a trop attendu pour nous payer? Qu'il y ait une situation comme ça pour décanter, mais c'est pas responsable.
Merci Simplice.
Je suis désolé.
Merci Simplice Moulumba. Nous allons à un moment donné, au moment de boucler cette émission, peut-être vous redonner la parole pour donner une dernière piste de solution si jamais il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit et qui est importante comme piste de solution. Jean-Louis Mia Souekama, journaliste spécialiste des questions économiques et de développement, il y a cet auditeur qui dit, ensuite vous allez aussi réagir à l'ensemble de la problématique et des solutions éventuelles, il dit ceci, Badé, la question est complexe dans le sens où le gouvernement qui accuse une dette qu'il doit apurer voudrait qu'il n'y ait pas rupture dans la chaîne d'approvisionnement en carburant. D'une part, les pétroliers de leur côté ont besoin d'argent pour passer les commandes. Où est-ce que le gouvernement pourra-t-il ponctionner pour liquider les arriérés de paiement pour satisfaire les pétroliers pour que la crise ne frappe pas en ce moment de la fièvre électorale pendant lesquelles le matériel doit être déployé afin de pouvoir parer à toute éventualité? Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, je l'ai lu tel qu'il a écrit et il a véhiculé son idée. Qu'est-ce que vous répondez à ce commentaire et à l'ensemble des problématiques qu'on évoque jusque-là?
Oui, parce que le gouvernement est prêt à son propre jeu. Si vous décidez de subventionner, quelles sont les mesures d'application, les mesures que vous prenez pour que cette subvention fonctionne, parce que c'est celle qui doit huiler la machine. Je vous donne un simple exemple. Lors du confinement du Covid, dans le premier gouvernement FCC Cash, on a senti sur le plan international une baisse des prix, des cours des produits pétroliers, du pétrole brut. Alors la ministre de l'économie de l'époque, voulant prendre mesures populistes, a baissé les prix. Or, elle ne s'est pas donné la peine de voir quel était, à court moyen terme, l'évolution des cours des produits pétroliers. Ça ne sert à rien de faire baisser les prix quand ils vont reprendre. Ça ne sert encore à rien de faire baisser les prix quand on est dans une situation de Covid qui a mené un ralentissement de l'économie et qui avec tout ce que cela entraîne, une baisse de recettes, une augmentation des prix, coûts des transports sur le plan international, etc. Donc, on pouvait garder cette marge. Or, maintenant, en baissant le prix, elle avait tué la marge pour laquelle le gouvernement pouvait jouer. Ça, c'est un simple exemple. Donc, c'est déjà tout ce component de décision qu'on doit prendre quand on décide de subventionner. Et quand on décide de subventionner, ça veut dire que c'est une mesure exceptionnelle due, ici, il y avait l'effet de la Covid, de la guerre russo-ukrainienne. Donc, il fallait que l'on réoriente pratiquement certaines dépenses publiques ou qu'on réoriente la masse dont dispose l'État pour payer ses dépenses vers ses subventions parce que c'est très stratégique et même l'usage même des stocks stratégiques, parce que généralement les stocks stratégiques n'existent pas, c'est aussi du cash généralement aussi. Donc c'est cela. Et aussi il faut se poser la question de toutes ces équipes qui tournent autour de ces manques gagnés. Parce que en fait, ces manques à gagner, pour vous dire la vérité, ça fait vivre tout le ministère d'économie et certains ministères.
Apparemment, c'est un système qui se charge de
gérer même la structure des produits pétroliers, c'est pratiquement toute une caste. Déjà, dès le début du mandat du chef de l'État, on a parlé des problèmes de rétrocommission.
Mais est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste de vouloir pointer des individus du doigt? Je n'ai pas envie d'amplifier ce qui a déjà été dit ici, mais vous l'avez entendu. C'est comme si quelques membres du gouvernement ou des personnes dans l'administration en profiteraient maintenant, alors qu'on voit bien que le problème date de plus de 30 ans, de plus de 40 ans. Est-ce que c'est toujours les acteurs de l'administration qui en profitent et qui sont à la base de cette situation? Est-ce que c'est l'État lui-même? Qu'est-ce qui explique qu'année après année, si on change des acteurs, le problème...
Deux, trois choses. C'est-à-dire, effectivement, quand dans l'administration, dans les cabinets politiques, vous tuez le sens du service, et que chacun, le moindre service qu'il doit rendre, et qui doit rendre au nom de la République, au nom du poste qu'il occupe, veut être rétribué, effectivement.
On aboutit au même problème. Merci Jean-Louis. Al-Kitenge, analyste économique et stratège, je vous invite à tendre l'oreille pour écouter ces derniers auditeurs et ensuite vous pourrez aussi réagir à la position de tous les auditeurs et de ce qui a été dit depuis votre prise de parole.
Je m'appelle Jacques Defonga Malomalo depuis Sangui, province de la Tchouk. Nous encourageons le gouvernement congolais pour ses implications dans la résolution des problèmes quotidiens des populations. Toutefois, nous réalisons que ces implications n'ont toujours pas d'impact majeur car elles ne s'inscrivent pas dans la longue durée. L'approche du gouvernement congolais est très attachée aux effets qu'aux causes principales des situations. C'est ce qui est à la base de notre inquiétude quant aux résolutions de cette harmonisation des accords gouvernement congolais et les pétroliers dans la gestion de la fourniture du carburant en RDC pour savoir si elles s'inscrivent dans la longue durée ou c'est tout simplement une façon de calmer la situation. Si oui, quelles en sont les garanties efficaces?
Al-Kitenge, votre réaction à toutes ces préoccupations?
Ma réaction est très simple, c'est que le gouvernement, il est en place pour résoudre les problèmes et non pour les reporter. Et les citoyens congolais ne sont pas des idiots, si vous leur expliquez, ils comprendront. Et les citoyens congolais se sont rendus compte que il n'y a pas un débat, il n'y a pas une transparence. Vous savez, si vous cherchez la structure du prix du carburant au Sénégal, elle est sur Internet, la nôtre, elle est réservée aux initiés. Je voudrais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est on a à peu près 200 importateurs des produits pétroliers. Quelle peut être la puissance de négociation de 200 importateurs dans un pays comme celui-ci? On devrait aller vers une centralisation d'importation de ce genre de produits stratégiques. Ça nous permettrait d'avoir les effets de volume et de bénéficier des prix plus compétitifs. Une dernière chose, c'est que si vous ne payez pas de l'argent aux opérateurs économiques, cet argent leur coûte cher. Celui qui paye en réalité, c'est le consommateur. On ne peut pas à la fois vouloir atténuer les difficultés du consommateur et en même temps les lui reporter de manière perpétuelle. Je pense qu'il faut avoir juste le courage d'ouvrir un véritable débat sur la question de la stratégie des produits pétroliers. Je voudrais vous donner un dernier chiffre. Le litre de carburant à Chabunda est à 7 dollars. Cela induit que le prix du ciment à Chabunda est à 120 dollars alors que nous le payons ici à 9 dollars. C'est ce genre de choses d'asymétrie choquante que nous devons être en mesure d'adresser, et c'est pour ça qu'on a un gouvernement. C'est pour trouver des solutions et mettre les citoyens tous à égale distance vis-à-vis de l'État. On ne peut pas avoir un État qui donne des solutions à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi et à Kolwezi, et qui ne donne pas du tout de solutions aux autres parties de la République, et celle-ci représente la majorité de notre pays. Et je crois que cette question du prix du carburant à Kinshasa appelle un véritable débat d'un prix national des produits pétroliers, parce que les produits pétroliers sont le levier du développement dans tous les secteurs. Il est important que une sincérité y soit appliquée, qu'un courage y soit appliqué, que notre intelligence collective y soit appliquée.
Merci Al-Kitenge. Cette émission Dialogue entre Congolais est une émission qui est écoutée en FM, mais aussi sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Merci à tous les auditeurs qui ont réagi et qui continuent de réagir dans cette émission, mais nous sommes tenus par le temps et nous devons arriver à nos conclusions. Al-Kitenge, analyste économique et stratège, je sais que dans la majorité des interventions que vous faites sur cette question des produits pétroliers, votre avis, si je ne l'ai pas mal interprété, c'est que l'État laisse l'application de la vérité des prix à la pompe. Mais on voit que le carburant, comme le pain et comme d'autres produits de première nécessité, sont subventionnés et ces produits-là n'entraînent pas les crises de manière récurrente, comme les produits pétroliers par exemple. On semble avoir une accalmie sur les autres produits de première nécessité, mais le gouvernement apparemment ne veut pas, on l'a vu, hein, que c'est un problème depuis de 30 ans, depuis de 40 ans, apparemment le gouvernement ne veut pas lâcher cette influence qu'il a sur les produits pétroliers notamment. Vous y croyez dur comme fer, vous voulez qu'on laisse la population décider. comment on devrait être géré finalement cette préoccupation.
Quelques individus en situation de position perpètrent la situation de profit illégitime en mettant en place un monstre. Cette situation de subvention tous azimuts est un monstre et c'est inintelligent. L'intelligence voudrait que, s'il y a de l'argent qui doit soulager les gens qui sont en situation de précarité, que cet argent fasse ce qu'on appelle un ciblage. Tous les autres qui peuvent payer, les diplomates qui sont ici, les hommes riches et les gens, les cadres d'entreprise, ils peuvent payer le prix. Les miniers peuvent payer le prix. Et que l'argent dont on dispose, parce qu'on finit par le payer, peut aller à ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est de la stratégie, ça, c'est de l'intelligence collective.
Et est-ce que ça ne créera pas un autre problème social?
Ça ne créera
des disparités entre les riches et les pauvres.
Mais il y a déjà une disparité entre les riches et les pauvres. Les riches peuvent payer, ils peuvent s'acheter du champagne, ils peuvent acheter du cigare, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, donc ils peuvent s'acheter du carburant. Il est à la limite de la bêtise collective que de penser que c'est à eux qu'il faut qu'on donne de l'argent. Ça n'a pas de sens. L'argent de l'État doit aller de manière à pouvoir cibler.
Donc la vérité des prix est un ciblage si possible pour d'autres catégories.
Et c'est techniquement possible.
Merci à vous.
Et surtout une justice et une équité, parce que je vous ai dit, au Sankou, le litre de carburant est à 5 dollars, l'État y est totalement absent. À Chabunda, le litre de carburant est à 7 dollars, l'État est totalement absent dans l'approvisionnement de ce produit stratégique.
Parce que vous pensez que dans ce jeu de ping-pong, même si le gouvernement, cette fois-ci, semble calmer le jeu, les tensions ne finiront pas tant qu'on n'a pas résolu le problème de cette manière.
Au-delà de la tension, je pense simplement qu'on a une question de responsabilité politique.
Merci Al Kitenge. Jean-Louis Miasueka, ma journaliste et spécialiste des questions économiques et de développement, j'ai l'impression que vous partagez plus ou moins que la vérité du prix à la pompe serait la solution, mais partagez-vous aussi le fait que ça serait une solution pour ceux qui peuvent payer? Et pour le petit peuple, on pourrait peut-être subventionner, ou bien avez-vous d'autres solutions pour qu'on n'ait plus cette tension permanente entre pétroliers et gouvernement, et que le gouvernement ne soit pas là en train de communiquer qu'il y aura tranquillité, alors qu'on voit bien que quand il paye peut-être le tiers, voire même les 10% de manque à gagner qu'il doit aux pétroliers très souvent.
Bon, rapidement aussi, il faut rappeler qu'à certains moments, on a fait la vérité des prix, hein, et ça marchait, hein, donc ça c'est un fait. Mais l'autre côté aussi, c'est le problème aussi de l'État, son organisation, son efficacité, etc. Hein, que quand il dit absence de l'État, c'est une absence totale aussi qu'il faut dire. Hein, c'est-à-dire que dans certains endroits, il n'y a pas d'État, où l'État ne fait rien, ou n'existe pas, même s'il y a des agents, etc. qui sortent. Donc c'est un fait. Et c'est pour ça, ce qui rend d'ailleurs difficile que propose
selon vous,
Al. Mais la vérité des prix, la vérité des prix doit être remise sur la table. C'est-à-dire qu'on doit arriver à une augmentation, ne fût-ce que progressive, pour revenir à la vérité des prix. Parce que on est dépendant de l'extérieur. Et comment gérer cet extérieur si on n'est pas organisé en dedans? Entre-temps, ça c'est le premier front. Le deuxième front maintenant, c'est comment pouvoir avoir une production pétrolière et une production qu'on peut raffiner pour avoir des stocks pour contrebalancer les effets extérieurs.
Mais justement, hein, répondant à cette préoccupation, comment peut-on y arriver?
Donc, à mon avis, il faut que tous les services spécialisés de l'État fassent leur travail sur toute la République et aussi qu'on se pose ce problème qui est un problème, on dit conjoncturel, mais qui dure dans le temps, devient structurel. Donc, aux finalités, la vérité des prix, mais aussi finalité la production de ces produits pétroliers sur notre sol pour pouvoir mieux contrôler, mieux suivre toute cette production et la pouvoir la mettre pour le pays.
Et cette accalmie qui est affirmée maintenant par le gouvernement, vous pensez qu'elle va durer ou qu'elle va reprendre?
Non, le gouvernement ne doit pas soigner les effets. Pour le moment, il faut des paiements consistants. Et il faut réorganiser cette profession. Parce que quand il y a plus de, 100, 200, 300 importateurs de pétrole, et parce qu'en fait, il y a un jeu, il y a un gars qui est bien placé à l'administration, qui place son gars, et ainsi de suite, et c'est pas normal.
Non, on comprend ça. Merci Jean-Louis Miasuekama. Et pour terminer les interventions de ce soir, Simpliste Moulumba, pétrolier, directeur général de la société pétrolière Okapi Distribution. Tout à l'heure, vous pensiez que le gouvernement, pour le moment, fait un peu du cosmétique et que la mafia qu'il y a, vous l'avez affirmé, devrait être terminée. Ce serait ça, la solution chez vous ou il y a d'autres éléments à ajouter pour qu'une solution soit trouvée? Et puis sur la question de la vérité de prix, Alky Tengue a hésité tout à l'heure que les pétroliers soient prêts à appliquer la vérité des prix à la station. Apparemment, la subvention vous profite. Qu'est-ce que vous répondez de manière générale pour conclure le débat de ce soir sur ces questions?
Premièrement, il faut mettre fin à saturer la structure des prix. Elle est déjà saturée. Toutes les lignes de calcul pour arriver à un prix définitif affiché à la pompe, on ne sait plus faire quelque chose de supplémentaire. La marge de manœuvre, il n'y en a plus. C'est comme a dit M. Kitenge, je pense que scientifiquement, il avait même clôturé les débats. Il a tout dit. Allez-y comprendre pendant la période de Covid, parce qu'il a soulevé ces faits. Il y a eu une loi de l'offre et de la demande qui est intervenue. Pendant que les gens étaient cantonnés chez eux, dans leurs maisons respectives, la ministre avait pris, Mme Bandoubola, que je salue en passant, avait pris une initiative. Je pense que c'était ses conseillers qui l'ont induit en erreur. Pour baisser davantage les prix parce que, sur le plan international, les prix ne faisaient qu'baisser. Or, cette baisse était justifiée par le fait que la population ne se déplaçait plus d'un coin à un autre. Et comme cela ne suffisait pas, elle a créé encore un système qu'on appelle la mutualisation des produits. Je m'explique, vu le temps qui nous reste. Je vais à la CEP Congo, je fais mon programme de livraison et mes Belges les déposent. Lorsque la DGDA va me donner le bulletin de liquidation pour payer au même moment la douane, stock stratégique, il y a d'autres rubriques, on a encore allongé. Parce que la structure des prix était déjà saturée, on a mis la mutualisation. C'est-à-dire quoi la mutualisation? Les services m'est rendus par la CEP Congo, mais je paye d'autres intervenants. Ils n'ont pas manipulé mon produit. Je paye par exemple SP Sacobil, je paye par exemple la Saucir, et que sais-je encore. Donc c'est ça le... Je ne comprends pas comment est-ce que Madame la ministre pouvait arriver jusqu'à ce point-là. Voilà pourquoi je termine, parce que je vois le temps de presse. Qu'on convoque les états-majors dans notre profession, qu'on se dise des choses pour traiter ces problèmes de fond en comble. Résoudre ces problèmes, ce n'est pas seulement la vérité des prix, qu'on élimine certaines lignes inutiles. Qui payent plus de 4 millions, comme ça, parce que tu as pris les produits à la CEP, tu dois payer ceci, tu dois payer cela. Qu'on arrête ça, ça va soulager, je l'ai dit.
Merci beaucoup, Simplice Moulumba, Alky Tengue, Jean-Louis Miasoué Kama, pour votre contribution à l'édition de ce soir. Pierre Diassinois, Guy Maté, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et Hervé Vaucamont aidé à préparer et à produire cette émission de Namadimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.